En 2021, on fête les 100 ans de la radio,
les 40 ans de la libération des ondes
et le lancement de la radio numérique DAB+ en France.
Toutes vos radios s'unissent pour célébrer le média préféré des Français du 31 mai au 6 juin prochain.
Émissions spéciales, ateliers, concerts, live stream, journées portes ouvertes.
Découvrez tous les événements proches de chez vous sur le site fêtesdelaradio.com et sur les réseaux sociaux.
Pour cette semaine particulière au cours de laquelle nous célébrerons la radio, RPL vous propose une programmation particulière. Émissions spéciales, reportages, chroniques, témoignages. Et aujourd'hui, on continue notre tour d'histoire, mais pas n'importe laquelle, puisque nous allons parler de celle de la radio, et la radio locale. Nous retrouvons pour cela le conférencier et historien local Patrice Desdois. Hier, il nous parlait de l'histoire de la radio à l'échelle nationale surtout, et aujourd'hui, on va avant tout s'intéresser aux premiers pas de la radio ici à Lille. Bonjour Patrice.
Bonjour à tous.
Alors hier, vous reveniez sur les grandes étapes de l'histoire de la radio en France, mais ici à Lille et disons plus largement dans la région lilloise, à quand remonte la première expérience radio ?
1927, la première radio. Alors avant, on pouvait capter, ceux qui avaient des émetteurs très puissants, on pouvait capter les radios nationales, mais au niveau local, la première radio, ça a été Radio PTT Lille, qui a ouvert l'antenne en 1927. Et qui était installé, les tout premiers studios étaient installés place de la République, à l'angle de la rue Inkermann, qui va au théâtre de Sébastopol. Là, il y avait un bâtiment, qui est toujours un bâtiment des postes. Et pendant un peu plus d'un mois, elle s'était installée dans le grenier du bâtiment. C'est là que sont parties les premières minutes de la radio. Et après, très vite, toujours en 1927, les studios sont allés s'installer dans la porte de Paris. Parce que peu de personnes le savent, mais il y a des pièces dans la porte de Paris. Et donc la radio s'est installée dans la porte de Paris, et y est restée pendant 2 ans environ. Et après, il s'est créé la Maison de la Radio, boulevard de la Liberté. Et la Maison de la Radio, qui n'accueillait donc que la radio, plus tard a accueilli la télévision, parce que c'est aujourd'hui les locaux de France 3, Hauts-de-France. Donc, boulevard de la Liberté, il y a cette belle maison qui est devenue les studios de la radio. Et puis la télévision est arrivée plus tard, elle, en 1950, et a eu des studios, elle, dans le beffroi qui avait été construit avec le nouvel hôtel de ville.
Et alors, vous avez parlé des PTT. Qu'est-ce que c'était, les PTT ?
Poste, téléphone, télécommunication, les PTT, c'est la poste actuelle, hein. Et la Poste avait donc un réseau de distribution du courrier, mais a également été concernée pour la création des premières ondes d'État, qui dans un premier temps partaient de la Tour Eiffel, qui arrosait toute la région parisienne, mais qui n'allait pas beaucoup au-delà, parce que les émetteurs n'étaient pas si puissants que ça. Puis même aujourd'hui, un émetteur à Paris ne suffit pas pour couvrir la France, sauf en grande zone, mais pas en FM. Et les PTT, donc, ont organisé les radios locales en France entre 1927-1928. La première année, il y en a, je n'ai plus le chiffre précis en tête, mais c'était 7 ou 8 qui ont été inaugurés. Et puis une dizaine d'années d'après. Et donc la France est découverte par une vingtaine de radios locales où il y avait donc des programmes faits uniquement localement. Hier, on l'évoquait, il y avait des concerts de diffusés qui étaient diffusés en direct du théâtre Sébastopol. Il y avait aussi des émissions avec des personnages très importants pour la vie lilloise qui s'appellent Alphonse et Zulma. C'est-à-dire avec Simons, Hélène Darel, qui était un duo de comédiens et qui avait des sketchs en ch'ti qui sont encore aujourd'hui des sketchs un petit peu cultes, même carrément cultes. Et donc, même si on a des fois mal à tout comprendre, hein, parce que leur ch'ti est vraiment du ch'ti... vraiment...
Pur et dur.
Pur et dur, voilà. C'est l'expression pur et dur. Mais, et donc, ils avaient des heures d'antenne également sur Radio PTT Nord. Et puis, il y avait surtout le terrain, quoi. Et là, il y avait des journalistes qui allaient, les premiers matériels d'enregistrement sont apparus aussi, parce que bien sûr, il fallait un matériel d'enregistrement, qui était à l'époque à fil. Parce que vous savez, les premiers magnétos n'étaient pas à bande, hein, mais à fil. Puis après, les bandes sont arrivées. Dans les années 80, même début 2000, on avait ces fameux Nagra, qui était une marque de magnétophone suisse, qui pesait 12 kilos, peut-être plus. Et puis, il fallait faire attention à la bande intérieure, alors que maintenant, on peut enregistrer 24 heures dans votre appareil. Là.
Au moins.
Oui, donc Radio La Poste, les PTT, ont géré donc toute cette partie radio locale. Et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où hier on en parlait, donc a été créé ce fameux club d'essai. La radio d'essai et le club d'essai. Le club était plus expérimental, lui. La radio, ben, c'était la conception de la radio actuelle avec des rendez-vous fixes. C'est-à-dire que maintenant, dans la radio, ça paraît évident que les journaux d'information soient à heure fixe, que tous les matins, l'horoscope, c'est à 3 minutes avant la radio, et que la chronique météo, c'est à telle heure, et la chronique culinaire. Vous savez que le matin, les gens s'appuient beaucoup sur les rendez-vous radio. Mmh. À l'époque, j'avais les stats qui prouvaient que 85%, alors les chiffres sont toujours bons, 85% des personnes font tous les matins la même chose au même rythme. C'est-à-dire que vous vous levez, vous allez mettre la machine à café en route, pendant ce temps, vous lavez les dents, vous prenez votre douche, vous sortez, vous allez choisir votre chemisier, et puis mettre un coup de brosse sur les chaussures, boire votre café, faire vos deux tartines, et puis...
Et on sait qu'à l'heure de la météo, c'est l'heure de partir.
Voilà, exactement. Et oui,
ouais, c'est ça.
D'où la précision ultime qu'il faut avoir le matin dans les rendez-vous de la matinale. À une minute près, quoi, parce que si la personne rate son bus à cause de l'animateur du matin, il se fait assassiner. Donc, cette structure est donc issue de la radio d'essai, du club d'essai, la radio d'essai, avec toutes ces personnalités donc, que j'évoquais hier, avec les Borisian, les Raymond Queneau, les Soupeaux, du Billard, Jean Chouquet et autres, et qui a existé peu de temps, qui a existé 5-6 ans, mais qui a laissé des traces, c'était tous des auteurs aussi un peu dans le surréalisme des années 50, comme ils ont laissé des traces dans la littérature, hein, ou le cinéma, hein, avec les cinémas. Il y a une période de révolution là, ouais. Fantastique. Et la radio, donc, a une période de révolution fantastique. Les premiers feuilletons, donc, étaient enregistrés sur place au club d'essai, dans leur fameux bâtiment, et dans leur cours, et qui étaient diffusés, donc, à heure fixe, tous les jours. C'est l'époque où a été créée la famille Duraton, que vous ne connaissez pas, vous, peut-être de nom, la famille Duraton. C'était tous les soirs, de mémoire d'enfant, je dirais, tous les soirs vers 20h, par là, et ça durait quoi, un quart d'heure peut-être. Mais c'était comme une pièce de théâtre. D'abord moi, c'est marrant, la radio, après, on se crée son monde, hein, on imagine ce que l'on veut dans la radio, c'est là aussi la magie de la radio. Moi, je l'imaginais sur scène. Bien qu'avec mes parents, on allait assez souvent au théâtre. Ben là, quand j'écoutais La Famille Duraton, je l'imaginais dans le fauteuil, et puis voir Jean-Jacques et les autres personnages, les voir rentrer à droite, sortir à gauche, je m'étais créé, comme mes parents, mon image. Et puis le metteur en ondes de La Famille Duraton était justement ce fameux Jean Chouquet, un des maîtres de la radio moderne, et quand j'en ai parlé avec lui, un jour, il me dit « Pas du tout, ça se passait dans la cour et dans une pièce qu'on avait aménagée en studio, et puis tout le restant, c'est des bruitages, celui qui fait le bruit du cheval ou le pas dans le gravier, etc. Tout ça, c'était fait sur place, c'était pas du tout dans un théâtre. » Donc, les premières séries télévisées, radiophoniques, les feuilletons et les séries de maintenant, étaient enregistrées et la création du studio d'essai, quoi. Qui est très très important pour la radio. Radio PTT, les radios locales vont s'arrêter avec la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura toujours des radios locales, mais des radios locales privées, hein, qui certaines seront très importantes, mais qui ont écouté en ondes courtes ou en grandes ondes. Et il y avait toujours quand même cette bataille avec les PTT, c'était assez farouche, en gros, entre l'État, les pouvoirs publics, et puis les radios privées. Et là, ça a été avec des fermetures, des interdictions, mais ça a été une grosse lutte quand même, jusqu'à l'arrivée de la FM. Et la preuve en est, c'est que des radios privées, pour émettre, sont parties soit à Andorre, hein, c'est une radio qui s'appelait à un moment Radio Andorre d'ailleurs. RTL est partie au Luxembourg. Radio Monte-Carlo émettait de Menton. C'est parce qu'en France, ils ne voulaient plus de radio privée. Et c'était une période assez difficile. Aujourd'hui, leur rivalité existe toujours, c'est un peu moins flagrant, ça se retrouve au niveau de la publicité. Vous savez qu'il existe les radios associatives qui vivent, elles, de peu de choses, malheureusement. Et parce que la radio coûte très cher, au niveau des émetteurs et du matériel. Il y a les radios locales privées, et puis il y a les radios privées nationales qui, elles, ne vivent quasiment que de la publicité, sauf Radio France qui touche des subventions énormes de la part des pouvoirs publics. Et là, effectivement, ben, ça provoque certaines réactions. Et non, je crois que il va y avoir une réorganisation de la radio inévitable, je crois, je pense, moi. Et je ne souhaite pas du tout du mal à 1000 personnes de Radio France, mais je crois qu'il va falloir redistribuer les moyens. Et les radios associatives, franchement, méritent d'être un peu plus récompensées parce que là, qu'ils font un travail extraordinaire, quoi. À Waller, ce monsieur qui gère sa radio, bravo, quoi. Mais il fait ça vraiment pour la gloire, quoi. Et pour la gloire, mais surtout pour les autres, quoi. Pour distraire les gens. Au début, dans les années 80, je me rappelle de la braderie de Lille. J'y habitais pas encore, mais mes frères habitaient depuis 70 sur Lille. Et je venais très souvent et je venais surtout à toutes les braderies. Et je me rappelle les années 80, et ça va rappeler beaucoup de souvenirs à certains de vos auditeurs, aux anciens. Sur la braderie, quasiment toutes les radios avaient un podium. Des petits podiums pour les radios, les radios de quartier, les radios. Mais il y avait pas mal de podiums. Hein. Alors, les plus gros avaient un podium sur la place Riou ou sur la Grand Place, comme Radio France. Il y avait comment, les Radio Métropolis à l'époque, qui n'était pas la même que celle-ci, mais qui avait le même nom. Mais il y avait oui, des radios qui. Radio Campus, bien évidemment, peut-être même RPL à l'époque. Hein. Et puis, ben, avec le temps, comme ça, les radios avaient sans doute de moins en moins les moyens d'être sur la braderie. Et c'est dommage, parce que c'était donner une ambiance à la braderie. Il y avait des groupes, forcément, des artistes qui venaient chanter, et puis
C'était
des
vivant.
invités. Ouais, c'était vivant, quoi.
Est-ce que la radio a une histoire particulière ici dans la région? Est-ce qu'il y a un engouement pour la radio particulier aussi à Lille et même dans la région? Parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de radios locales, associatives. Est-ce que c'est typique Hauts-de-France?
Dans les Hauts-de-France, on communique beaucoup. C'est une région où, je ne veux pas me caresser le nombril, mais si je suis venu habiter dans le Nord, c'est qu'ici, on a des rapports exceptionnels, quoi. Entre gens, entre voisins, même ici dans où j'habite, il y a cinq résidents, hein, ici, dans ce petit bâtiment. On se connaît, on peut discuter, on peut boire un verre. Ça se fait pas ailleurs, quoi. Moi qui viens de la région parisienne, surtout la région parisienne, ça n'existe pas, quoi. On aime se rencontrer, on aime partager. Et pour moi, la radio, c'est un partage, comme les conférences. Les conférences, elles fonctionnent bien parce que je partage. Ce n'est pas des cours magistraux, hein, j'en ai pas la formation. C'est plutôt un travail de passionné qui propose des conférences, sur l'histoire de la radio notamment. Et donc c'est une espèce pas de dialogue, parce qu'à un moment, il faut que je discute tout seul quand même, mais c'est une espèce de dialogue avec les personnes. Et pour la radio, c'est pareil, il y a ce besoin d'échange. Quand on faisait des émissions en extérieur, il y en avait tous les dimanches quand j'étais en région parisienne, à Melun, hein, qui est la préfecture de la Seine-et-Marne, qui est à 50 km en dessous de Paris. Quand on faisait une émission en extérieur, on était là sur place, mais personne ne venait nous voir, ou de temps en temps, passer, prenait un prospectus. Mais ici, les émissions dans le Nord, c'est autre chose. Hein. Une émission dans le Nord, je me rappelle des podiums sur la braderie. Une fois, Boulevard de la Liberté, on avait. Alors, c'est vrai qu'on avait de temps en temps des invités connus, mais Il y a toute la journée, il y a eu 30-40 personnes qui étaient là à regarder leurs animateurs qu'ils connaissent, etc. Il y a une relation particulière avec, avec les personnes, les gens de la radio, quoi. Pareil, à Lille, quand on demandait aux auditeurs de réagir pour telle ou telle occasion, ben, il y avait une espèce de solidarité qui se mettait en place immédiatement, quoi. Ça, c'est vraiment très fort dans notre région, et je pense que les gens, ben, dans ce besoin d'échange naturel, il y a la radio. Il y a la radio, et je suis très optimiste pour la radio locale. Et donc, je crois qu'il y a justement par rapport à ça, par rapport aux émissions en extérieur, d'aller à la rencontre des gens, pourquoi pas d'avoir une émission fixe toutes les semaines au Furet ou à la FNAC ou dans un endroit public comme ça. J'avais, moi, mon patron, parce qu'après après France Bleu Nord, je suis allé travailler au Théâtre Sébastopol, où je m'occupais de la partie publique du Sébasto et puis de la billetterie. Et mon patron, donc Guy Marseillera, qui avait participé à ses premières radios associatives, comme j'en parlais hier, avec Radio Lille 80, Radio Lille 80 qui a vécu peu de temps, hein, qui a disparu quand les radios ont été officielles, Guy avait toujours dans l'idée de créer une radio. Et il m'en a parlé. Alors, Guy est un type extraordinaire. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelqu'un que je porte fort dans mon cœur. C'est quelqu'un qui a réussi en partant de rien, mais parce qu'il est talentueux, qu'il a du nez pour ce qu'il entreprend. Et pendant des années, il m'a dit, il faut qu'on crée une radio. Il me dit, attends, on va créer une radio, il y a des fonds, une grande production, il n'y a pas un problème d'argent, là. Il dit, on crée une radio. Il me dit, on prend un local, on se met à la vue de tout le monde, rue de Béthune ou rue Neuve, et puis là, on met un radio, vu sur le public. C'était d'ailleurs la volonté des radios locales de Radio France, qui est d'avoir une ouverture sur la rue. C'était vrai à Lille, c'était vrai à Melun, c'est vrai dans toutes les villes. Un peu comme ça, devant un studio. Et je crois qu'aujourd'hui, la radio qui prendrait l'initiative de même si les loyers sont chers, mais bon, bah après tout, c'est une question après de financement, qui aurait aujourd'hui des locaux, des studios sur une rue passante de Lille, pas perdue au fin fond du bout du monde, dans la rue derrière chez moi, qui est adorable, mais il n'y aurait personne. Mais en centre-ville, ben, là, je crois qu'il y a encore de belles choses à faire, quoi, avec des invités qui viendraient, avec des jeux, des expériences, de tenter aux gens des émissions, un peu comme il y avait les radios crochets, de faire des animateurs crochets, quoi, des animations crochets, d'offrir des temps d'antenne à des gens qui, pendant 5-10 minutes, parleraient. Les gens aiment bien parler à la radio, hein.
Oui, c'est vrai.
Ils sont fiers, dans les jeux ou vous, dans vos reportages.
Oui.
Les gens, même s'ils ont un peu les jetons, mais ils aiment bien parler à la radio. Je peux dire un bonjour à...
Et particulièrement, encore une fois, les gens de notre région ou pas ? Est-ce que y a les gens, ils sont vraiment consommateurs de radio locale ici, dans la région ?
Oui, oui. Ici, par rapport à la France entière, on a des résultats, de très bons résultats. On n'est pas les seuls. Je peux juger de Radio France, par exemple. Hein. Il y avait des bons résultats en Bretagne, du côté de Rennes. De très bons résultats à Grenoble. Il y a toujours de très bons résultats. C'est pas parce que maintenant le directeur est un de mes anciens confrères responsable des programmes. Mais c'est un type Jean-Loup, c'est un type extraordinaire. Il y a vraiment de bons résultats. Avec des résultats exceptionnels dans la Creuse. La plus forte audience, c'est la Creuse. Hein, où ils font un truc, une écoute à 30%, je crois. Ils ont un tiers du marché pour eux. C'est énorme, quoi. Mais en dehors de ça, le Nord, oui, c'est une région où la radio était beaucoup écoutée. Beaucoup écoutée parce que dans le Nord, ils sont habitués très tôt à écouter la radio, avec les radios anglaises, les radios corsaires, les radios London City et autres. C'est radio offshore, donc sur les bateaux. Les jeunes écoutaient beaucoup de radio. Et les jeunes de l'époque, maintenant, sont des gens qui ont 50, 60 ans, comme moi.
Toujours des jeunes.
Oui, je trouve que les gens sont jeunes dans la région, il n'y a pas trop de... J'ai plein d'amis de mon âge, moi, hommes, femmes, qui sont assez dynamique. Je crois qu'on est aussi bien un peu mou du genou, mais bon. Non, non, on est une région. Mais ça va être faussé parce que je suis un amoureux fou de ma ville et de ma région, donc je ne vais pas être très objectif, quoi. Mais je crois que sur le Nord, il y a encore vraiment de belles choses à faire, quoi. Et Guy Marseguera, s'il me proposait aujourd'hui de mettre de l'argent dans une radio, peut-être que je lui dirais oui maintenant, je ne sais pas. Mais,
à mais bon entendeur.
Ouais. Mais je suis un peu vieux quand même. Et puis surtout, comme il est très 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 exigeant, j'avais surtout peur, je ne voyais pas quel programme on aurait pu faire parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes goûts musicaux, quoi. Alors déjà, au niveau de la programmation.
L'arrivée de la radio à Lille, ça a été un tournant, du coup, on peut le dire ?
Oui, la radio, dans... Oui, peut-être pas qu'à Lille, je crois que dans... La radio a été un événement extraordinaire, quoi, dans les foyers. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début du 19e, au 18e, au début du 20e, 1900, que faisaient les Lillois ? Il n'y avait pas la radio, pas la télévision, pas le cinéma. De temps en temps, un cirque qui passait, de temps en temps, il y avait les fêtes de Lille qui avaient lieu au moment de Mardi Gras, mais ça durait une journée, il y avait quasiment aucun loisir. Les loisirs des Lillois, c'était quoi ? Bon, quelques jeux flamands par-ci par-là, et jeux picards par-ci par-là, mais c'était de se retrouver au café, à l'estaminet, comme on dit, donc... Et là, on se retrouvait le soir après le travail, même si les gens travaillaient, c'est épouvantable, ils travaillaient 10, 12 heures par jour, hein. Les enfants travaillaient jusqu'à 10 heures par jour. Non, les enfants, dès l'âge de 6 ans, pouvaient travailler, c'est un truc de fou. Mais on se retrouvait après le travail, et ben, on ne restait pas à la maison. Et la moitié de la population lilloise, c'était illettrée. Ils n'avaient pas lire le journal, ils n'avaient pas lire les livres. Hein. Donc, ils se retrouvaient au bistrot, au café. Et c'était la grande époque des cabarets, des estaminets où les gens chantaient. Le loisir de l'époque, c'était de chanter. Alors, ils chantaient entre clients dans les cabarets, dans les estaminets. Il y a quelques chanteurs qui passaient, comme Desrousseaux, chanteur de Petit Quinquin, la chanson de Petit Quinquin, qui passait dans des cabarets. Et c'était donc l'animation de l'époque. Et puis d'un seul coup, la radio arrive. Alors il y a eu le phonographe avant, qui était aussi une avancée, mais les phonographes, les ouvriers ne se payaient pas un phonographe, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc c'était réservé à une certaine classe sociale, hein, la bourgeoisie, les commerçants, mais pas les ouvriers. Et donc, rares étaient ceux qui pouvaient avoir un tourne-disque, comme ils disaient parfois à l'époque. Et puis, la radio arrive. Et la radio, comme je vous ai dit, en 1921, c'était vraiment expérimental. Mais 22, 23, 24, c'était un équipement, mais c'était monstrueux. Il y avait des fabricants de postes de radio à Lille, il y en avait. Parce qu'il y avait besoin, il y a eu un développement, un marché énorme à prendre, comme plus tard avec la télévision. Et là, c'était la révolution, puisque les gens, chez eux, avaient un loisir, avec des émissions jeux qui aujourd'hui n'existent plus. Mais il y avait, bien sûr, qui tout double, on posait des questions aux gens qui gagnaient une somme, ils gagnaient 5000 francs, quitte ou double. Double, on applaudit, c'était enregistré dans des cirques, ou dans des salles. Donc il y avait, c'était loisir, il y avait ce fameux feuilleton comme la famille du raton dont je vous parlais. Le midi, il y avait Zapimax, il y avait des jeux, il y avait l'homme des vœux Bartissol, ça m'a rappelé quelque chose aux anciens, ça. Et la radio était un vrai loisir.
Et financièrement, c'était quelque chose d'accessible aussi.
Ah oui, parce que les postes, forcément, les premiers coûtaient une fortune. Très vite, le poste est devenu un tarif... accessible. Ça n'a jamais été bon marché, une poste de radio, dans cette époque-là. Mais on saignait un peu, comme aujourd'hui, si on veut acheter un ordinateur, ben on va économiser plusieurs mois. Dans certains foyers, tout le monde n'a pas les moyens énormes. Hein. Donc, on économise sur plusieurs mois, comme on économise pour des vacances, ou pour un bel appareil photo, on économisait pour un poste de radio. Ici, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais ça, vous avez la chance de pouvoir le voir. Ici, il y a un poste de radio. Ici, c'est un Philips, et qui est un des tout premiers postes transistors. C'est-à-dire qu'il est à un secteur, il y a un câble, et il y avait une pile qui n'existe plus maintenant. C'est des piles qui étaient énormes. Et c'est un des tout premiers postes transistors qu'avait acheté mon père à l'époque. Et il y a un musée de la radio dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, et qui est un passionné de la radio. Et un jour, je l'ai appelé pour savoir s'il connaissait le poste que mon père m'avait donné un jour. Et il me dit, ah, bah, ça, c'est un Philips, il m'a même donné le prix d'achat à l'époque. C'était aujourd'hui environ 2000 euros, quoi.
Ah oui.
Donc, c'était pas bon marché, mais pas accessible. Non, non. Ouais, le 2000 euros, c'est parce que c'était un des premiers transistors. Ouais, mais le transistor n'a jamais été. Le poste de radio n'a jamais été bon marché, jusqu'au transistor. Et là, le transistor, effectivement, on avait un transistor pour rien, quoi. Là, c'était peut-être aujourd'hui pour 20-30 euros, on avait un petit poste transistor qu'on emmenait partout. La révolution, pour moi, c'est vraiment le transistor, quoi. Mais dans les années 27, 30, 35, c'est évident que la radio apportait plein de choses aux personnes, avec une connaissance sur le monde. Il y avait des reportages de faits sur le monde, sur la vie politique, la vie sociale. Il y avait une communication. D'abord, les dirigeants s'en sont vite aperçus. C'est-à-dire qu'avant, pour communiquer auprès d'une population illettrée, ce n'est pas évident. Et là, d'un seul coup, on peut leur parler. Donc, tout le monde pouvait comprendre. Donc, ils ont très vite utilisé ce nouveau média pour communiquer sur un plan social, culturel aussi, mais souvent politique. Mais c'était aussi beaucoup le loisir, la radio. Et donc ça a dû révolutionner la vie des Lillois. Et là, honnêtement, sans doute la vie de tous les Français, du Nord au Sud. Mais avec cette particularité, quand même, c'est qu'ici, dans le Nord, il y a une participation des gens, quoi. Là, Lille va peut-être être champion de France de football. J'ose pas imaginer le monde qu'il va y avoir dans la rue. Couvre-feu, pas couvre-feu. J'espère qu'ils ne vont pas faire trop les imbéciles, mais ça va être énorme. Comme quand il y a Lille 3000 ou autre, où il y a des centaines de milliers de personnes dans la rue, les gens sortent, quoi. Quand il y a un événement, les gens y vont, quoi. Il y a des sorties de géants dans les Flandres, enfin un peu partout, il n'y a pas que dans les Flandres d'ailleurs. Il y a un monde fou dans les moins de petits villages, et c'est rempli, il y a 2-3 000 personnes. Les gens sortent ici. Et la radio, c'est pareil, les gens écoutent la radio, quoi. Mais surtout la radio locale. Moi, je crois beaucoup à la radio locale. Vous l'avez compris. Hein.
Oui. Je crois que c'est le message de cette rencontre. Merci beaucoup pour votre éclairage, Patrice. Et alors, si on souhaite en savoir davantage sur l'histoire de la radio, on pourra peut-être prochainement lire un de vos livres, écouter une de vos conférences.
Ah oui, oui, oui. Là-bas, pour les conférences, il y en a plus depuis le petit quinquin en novembre 2019. Mais j'espère que ça va se débloquer. Je sais qu'il y a une histoire du petit quinquin. J'en ai quand même une de prévue le 8 octobre à la médiathèque de Roubaix. Celle-ci, c'est signée. Mais il y en aura d'autres. Hein, donc, mais je vous informerai. Vous enverrez le programme.
On prend date.
Oui, pour l'histoire de la radio. Puis vous pouvez très bien organiser une conférence sur l'histoire de la radio.
Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt.